Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma du mois d'août avec Jean-Max Méjean. Bonjour Jean-Max.
Bonjour Sylviane.
Alors, vous êtes certainement encore en vacances, mais on pense déjà à la rentrée, on pense déjà à l'école. Oh là là, on va pas se faire aimer là, hein, Jean-Max.
Non.
Et on a intitulé cette émission « L'école au cinéma ». Donc, vous vous doutez un petit peu de la musique, la première musique que l'on mettra, je pense. Hein, quand vous pensez « école »,
oui, que...
vous pensez à qui ? Mystère. Et puis, on aura, comme d'habitude, nos sorties d'août de septembre, nos coups de cœur. Alors, l'école au cinéma, moi, je pense aux 400 coups. C'est marrant, parce que quand on dit l'école au cinéma, je pense aux 400 coups.
Moi. Oui, alors, sauf que c'est dans une qu'on appelait à l'époque une maison de redressement.
Oui,
hein.
Mais ça ne me sait pas. Je pense
oui,
à
oui,
ça.
Bien sûr. Non, puis après, il y a quelques scènes qui se passent dans une école à Paris 18e. Là où habitait, parce que c'est un enfant de Montmartre, hein,
ah ouais.
François Truffaut.
Ah ouais.
La plupart de ses films se passent là.
Non, mais quand il dit « ma mère est morte »,
oui.
Ça m'a tellement marqué.
Alors, en fait, vous savez pourquoi il dit « ma mère est morte » ?
Non.
Parce que juste le plan précédent, il a vu sa mère avec son amant à la station de métro Place de
oui,
Clichy. Et pour lui, il fait ce lapsus « ma mère est morte ». En fait, c'est comme si elle m'avait abandonné, quoi, en fait.
Ah, d'accord, voilà. Ben vous voyez, je ne savais pas. Vous êtes
si.
Mine de renseignements.
Oh non, vous êtes trop gentille avec moi. Mais c'est quelque chose que je sais, alors bon.
Et alors vous, le film sur l'école, vous pensez auquel en premier ?
Alors, ben moi, Être et avoir, de Nicolas Philibert,
ah, oui,
pour moi, 2002. C'est, Nicolas Philibert est un excellentissime documentariste. Mais alors ça, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre.
Oui.
Vous vous souvenez de l'affiche,
oui, oui.
L'enfant
oui.
qui montre ses mains, il y a des taches d'encre. Bah, pour moi, c'est... Alors, il y avait les photos de Doineau aussi
oui.
à l'école. Pour moi, ça reste... Pour moi, ça reste l'école. Alors, comment on peut dire ? Parce que pour moi, bon, on ne peut pas dire que j'adorais les rentrées scolaires, au contraire. Hein. D'ailleurs, là, on va se faire maudire parce qu'il fait encore très chaud. Les gens, ils ont envie d'aller à Palavas et nous... On va
on parle
parler
de
des bancs
mais
de l'école.
Vous savez que dès le début du mois de juillet, dans les
mais je le
supermarchés,
sais,
il y a les cartables.
Mais
il
y a les cartables. Et puis là, en août, ils ont mis les bouchées doubles parce qu'à partir du 10 août, ça y est, ça commence pour un cartable, une trousse. Enfin, les enfants ne peuvent pas ignorer que dans quelques jours, ils vont retourner sur les bancs.
Bah, il faut peut-être les préparer psychologiquement parce qu'il y a eu mois de juin déjà tellement chaud. Hein. L'école très
perturbée. Moi, j'ai peur que la rentrée soit aussi caniculaire que...
Moi, j'ai beaucoup pensé aux élèves qui passaient le bac
moi
fin
aussi.
Juin dans la canicule,
mais
etc.
Moi, je me souviens, on passait le bac, il faisait très chaud, mais ce n'était pas cette chaleur-là. C'était pas aussi terrible en juin. Hein.
Et en septembre, à Nîmes, il peut faire très, très chaud. Et puis, en septembre, à Nîmes, il y a la feria. De toute façon, la rentrée scolaire à Nîmes, elle commence après la feria.
Oui, oui, il faut... Bah, Nîmes, c'est Nîmes. Hein, c'est pas... Et moi, je me rappelle, j'ai été prof de philo à Marseille. À partir du mois de mai, les élèves, c'était des terminales, ils voulaient qu'on aille réviser à la plage.
Ah, oui. Ah là là, on fait vraiment les vieux profs, là. Alors, vous
les anciens combattants.
Vous disiez, penser à être et avoir, moi je penserais plutôt à Entre les murs de Laurent Quentin.
Alors là, est-ce qu'on va être, on va pas se disputer quand même.
Non,
qu'est-ce
non,
que
non.
vous avez pensé de ce film ?
Ben,
Arne d'Or 2008. Hein.
Mmh. Ben, je sais pas, j'avais beaucoup aimé.
Eh ben,
j'avais
moi
beaucoup...
non.
Ah bah écoutez, ça prouve que les goûts sont différents.
Non, parce que... Non, parce
j'arrive
que...
plus à me rappeler pourquoi j'ai aimé, mais vous vous rappelez pourquoi vous n'avez pas aimé.
Parce que déjà, il y avait ce professeur-là, vous voyez de qui je veux parler, bien sûr, qui avait écrit ce roman, qui a été mis en scène. C'est pas du tout de l'envie ni de la jalousie. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette classe ?
Moi, je
le mettrais dans une classe où classe relais, où les sièges volent, les... Mais là, c'était une classe qui était tout à fait... Bon, je connais l'établissement scolaire où ça a été tourné. Je crois que c'est dans le 20e d'ailleurs. Mais moi, en plus, ça ne méritait pas la Palme d'Or, je trouve. Mais maintenant, les Palmes d'Or...
Oui, vous n'êtes pas... Moi, un film, par contre, que je n'ai pas du tout aimé, c'est La Journée de la Jupe.
Oh,
vous n'êtes pas d'accord.
Non, je n'ai pas adoré. Mais j'ai trouvé que le sujet, par rapport à Entre les murs, était beaucoup plus original, quand même.
Ouais.
Puis à Isabelle Adjani.
Ben oui, mais je n'aimais pas du tout.
C'est
oui,
Jean-Paul Lilienfeld de 2009. Alors, on peut le dire parce que ça peut-être va leur donner envie, s'ils le trouvent, le film. Mais je crois qu'on le trouve facilement en VOD. Hein. C'est le jour où les élèves, les garçons ont décidé de venir... c'est pas eux qui ont décidé. La direction les incite à venir avec une jupe. En fait, c'est l'été 2009. C'était les débuts du questionnement sur le genre et tout ça. Et non, j'ai trouvé que... Alors, peut-être le film n'est pas complètement...
Je trouve qu'elle n'était pas crédible.
Ah oui
à Gianni. Mais bon, vous savez,
autant,
après...
Autant pour moi.
Non, non, mais ça fait aussi longtemps. Peut-être que j'ai extrapolé ou que ce n'est plus le... Mais je pensais à ces films, je ne sais même pas les noms, vous savez, toute série qui s'appelle Prof ou
c'est que des humoristes. Avec, justement, Patrick Bruel. P-R-O-F-S.
Ouais,
oui, j'avais trouvé, c'était drôle. Moi, j'étais
j'arrive
prof
pas à suivre
à l'époque.
Ça. Ah, bon j'arrive pas à suivre ça. Je trouve ça trop caricatural. Trop...
Alors, les profs, enfin, peut-être que ça devient passionnant, parce que nous sommes deux anciens professeurs, ouais. Donc ça nous ramène des souvenirs. Mais il y avait même des pièces sur la salle des profs. Mais il y a eu un film qui s'appelle La salle des profs aussi,
ouais.
Un film allemand, qui était d'ailleurs assez dur celui-là.
Ouais.
C'était pas de la gaudriole. Hein.
Ouais. Alors, le film, parce que vous disiez, vous aimiez pas Entre les murs, vous ne saviez pas pourquoi cette classe était intéressante. Par contre, Les héritiers de Marie Castille, Manson Char. Là, cette classe mérite vraiment d'être là.
Parce que c'est une... Moi, quand j'étais prof, j'ai créé des journaux scolaires, je n'ai pas raconté ma vie, et j'ai fait pendant 12 ans un atelier théâtre. Et ça, je trouve que le théâtre, c'est la chose la plus formatrice. Et il continue d'ailleurs, après toutes ces années, ces élèves-là qui maintenant approchent de la cinquantaine, qui m'écrivent. Et on est allé voir ensemble récemment le Cercle des Poètes disparus au théâtre.
Au théâtre. Ah oui, j'ai vu qu'ils le mettent en scène. Oui.
Ah, c'est, alors là, la pièce, bon, on n'en est pas là. On parle que de cinéma.
On revient aux héritiers des élèves de l'EP qui mettent en scène la princesse de Clèves.
Voilà, la princesse de Clèves, moi personnellement, je n'arrive. C'est un film difficile. D'ailleurs, c'était Sarkozy qui avait dit à l'école, bon, évidemment, ça ne marche pas parce qu'ils étudient la princesse de Clèves.
Bon. Mais bon, donc...
Eh bien, la preuve que non, c'est que ça marche puisque des élèves de lycée professionnel peuvent s'incarner dans des personnages du XVIIIe siècle.
Mais le théâtre est une... Parce que les élèves, c'est vrai, on les voit toujours de notre bureau, on les voit toujours dans un certain contexte, alors que le théâtre leur permet justement de se montrer autrement. De les voir sur pied, en pied, parce que souvent on les voit assis. Mmh. Donc le théâtre est vraiment... je fais une émission en levée de rideau sur le théâtre, et c'est vrai que le théâtre,
oui,
c'est une façon de réaliser vraiment, de voir quelqu'un d'une façon différente. Et alors, on va faire notre première pause musicale, et bien sûr, c'est Charlemagne qu'on va écouter.
Bah, qui a eu cette idée folle.
Un jour d'inventer l'école.
C'est
Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui, et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Participe passé, 4 et 4 fois 8, leçon de français, de mathématiques,
que de travail,
travail,
sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser
Alors après ce brave Charlemagne qui n'a jamais eu de barbe fleurie, hein, vous le savez ça.
Non,
hein?
Puis même, je ne sais même pas s'il a inventé l'école d'ailleurs. En fait, à l'époque, ce n'était pas l'école de Léon Blum. Hein,
ah,
c'était
non.
Pour apprendre aux enfants de la noblesse à écrire et parler latin. Quoi.
Alors, la deuxième pause musicale, il y aura aussi... Là, il y aura une surprise. Charlemagne, je pense que tout le monde l'entonne en même temps. Alors, vous avez noté, là aussi, j'avoue que je ne connais pas, un métier sérieux de Thomas Lilti, 2023.
Thomas Lilti, oui, de 2023. Vous connaissez Thomas Lilti. Lui, sa spécialité, c'est de traiter, de faire des films. Ce n'est pas des documentaires, ce sont des films de fiction, par exemple, sur les métiers. En fait, il en a fait un sur la médecine.
Hein? Ah non, je ne connais pas du tout.
Et là, donc, il s'est penché sur l'école. Alors, ce sont des films de fiction, comme je viens de le dire, et qui mettent en scène, là, des professeurs dans la relation de tous les jours, la salle des profs, qui est-ce qui va me ramener en voiture. Et évidemment, on pourrait alors mettre en opposition, évidemment, on pourrait parler du film sur le professeur Patty. Qui est aussi un film sur l'école,
ouais.
Mais bon, c'est pas un film sur l'enseignement.
J'ai pas trouvé le courage d'aller le voir. J'avais peur d'être trop remué, d'être trop secoué.
C'est secouant, mais en fait, comme il s'est basé seulement sur les rapports de police et les rapports de justice, c'est très. Je peux pas dire que ça manque d'humanité, au contraire, mais c'est très. Comment dire. C'est très bien mené.
Très didactique.
C'est poignant, parce qu'on voit une mécanique qui se met en marche.
Et surtout que cette gamine qui a lancé le truc, en fait, n'était même pas dans la classe.
Elle n'était pas là, ce matin-là.
Et cette façon de... Cet engrenage, et puis c'est ce mode d'exécution. Enfin, c'est vraiment...
Puis, il y a ça, évidemment, ça, c'est l'horreur absolue. Il y a le fait aussi que, à part la chef d'établissement, la principale... on n'est pas du tout écouté par les...
Les autorités.
Par le rectorat, par les cellules de crise et autres.
Donc, un métier sérieux. Et puis, vous avez dû taper sur la machine. Je vois que Zéro de conduite de Jean Vigo est de 1933.
Non, c'est pas un film de science-fiction. C'est un film de 1933, Zéro de conduite de Jean Vigo. On ne représente pas Jean Vigo, bien sûr, hein, la talente. Donc, Zéro de conduite est un film... il n'a pas fait beaucoup de films puisqu'il est mort très, 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 très jeune. Et donc, Zéro de conduite, alors que c'est un film sur l'école, c'est un film sur la révolte des enfants. Il y a eu après un film anglais, peut-être 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, qui s'appelait If.
Oui,
voilà.
If, oui.
Les enfants, c'est un peu un remake de Zéro de conduite, c'est les enfants qui se révoltent dans une école et qui essaient de prendre le pouvoir.
Le pouvoir. Mais c'est vrai que le pouvoir des instituteurs était énorme, et les châtiments corporels.
Ben oui.
Et vous avez parlé tout à l'heure de Le Cercle des Poètes disparus en théâtre, mais on va en parler en cinéma 1990. Là aussi, ça a été une sorte de révolution, ce film. Il a eu un tel succès.
Alors, c'était un film qui a eu... Il y a des films comme ça, peut-être...
Et l'acteur aussi.
L'acteur était formidable et... Le sujet est étonnant parce que ça se passe en Angleterre, si mes souvenirs... Oui, c'est en Angleterre, c'est pas en Amérique. C'est dans ces écoles très, très chic anglaises.
Avec les uniformes.
Des jeunes qui suivent passionnément un de leurs professeurs qui est un poète et qui leur apprend à se libérer un peu du carcan. C'est une réponse aussi à Zéro de conduite, c'est-à-dire quand un enseignant... a du charisme, ça peut changer complètement l'éducation. Ouais. Hein. Captain, oh my captain.
Et alors, vous l'avez vu en pièce de théâtre, non?
Oui,
vous y êtes allé avec vos...
Avec mes anciens élèves, c'est magnifique, magnifique, bouleversant. D'ailleurs, ça a tellement de succès que ça a eu deux Molières, je crois, et ça a été repris par un autre acteur parce que lui,
il avait d'autres engagements.
Ouais. Bah oui. Après, si on s'installe dans une pièce pendant 2 ans, je pense qu'après on ronronne. Donc ça a été repris. Si vous allez à Paris ou si ça vient en tournée, j'aimerais bien, que ça se déplace à Nîmes, par exemple. Je sais pas. Avant, ça existait les galas Carcentier-Herbert.
Ah oui, ça c'était avant.
Oui, mais c'était avant. Mais pourquoi ça n'existe plus? C'était génial, ça.
Parce que ça a été remplacé par les théâtres,
les tournées. Ou par le cinéma.
Mais c'est pas dans la saison 2026-2027. Bon. Donc, Le Cercle des Poètes disparus. Et je vois que le Régulièrement, à chaque génération, il regarde le siècle des poètes disparus. Alors, on va finir ce thème de l'école avec « Apprendre ». C'est tout récent.
De Claire Simon, 2024, c'est
ouais,
passé
c'est
à Cannes.
C'est tout récent, j'ai pas vu et vous êtes fan.
Ben, c'est-à-dire, je le mets en miroir avec « Être et avoir » de Nicolas Philibert, parce que le film arrive 22 ans après. « Apprendre » donc de Claire Simon, l'un c'était un homme, là c'est une femme. Une classe pareille de CP. Nicolas Philibert, c'était à la campagne et là c'est en ville. Donc ce sont deux styles d'élèves, ouais. Mais toujours aussi attachant, bouleversant. Oui. On devrait plus souvent écouter les enfants. Hein.
Donc, j'ai parlé d'une surprise comme deuxième pause musicale de Georges Brassens qui a écrit La maîtresse d'école. Vous m'avez dit qu'on reconnaîtrait bien son style.
Ah ben oui.
Mais il ne l'a jamais chanté.
Et non, à ma connaissance. Hein.
Donc là, elle est chantée par Grégory Sajou.
Oui, il y a beaucoup de chansons de... Mais vous savez qu'il y a le procès, là, qui, la fille du Gibraltar avec la famille de Brassens. Et la fille du Gibraltar a gagné, donc elle avait trouvé les carnets secrets de Georges Brassens, écrits de sa main, et des chansons, beaucoup de chansons inédites.
Ah, d'accord. Pourtant, elle en a écrit déjà beaucoup. Hein.
Quand le procès sera... Ben oui, mais là, c'est plein. C'était une valise pleine. Ah ouais. Là, on pense que quand le procès sera fini, que ça va tomber peut-être... Que ça va être exploitable. Peut-être on va entendre des gens chanter de nouvelles chansons de
Georges Brassens. Donc là, c'est La maîtresse d'école, chantée par Grégory Sajou.
À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvenés, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Aux pupitres alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne craquent. Connurent tout à coup la faillite, le crack, la faillite, le crack. Lorsque le proviseur...
Alors, sur Radio Alliance Plus, nous avons parlé des films sur l'école, mais on va parler aussi des sorties d'août ou septembre. On va peut-être commencer par les sorties plus anciennes. Vous avez vu les deux films sur De Gaulle, le film d'Antonin Baudry, les deux films, L'âge de fer et J'écris ton nom. Vous avez aimé.
Ah bah oui.
Et alors, vous m'avez surpris que des jeunes, enfin, 25-30 ans.
Il y a des jeunes, des ados et des jeunes trentenaires, on va dire. Il y a quelques adultes aussi, bien sûr, qui viennent... peut-être que ça leur évite d'écrire les mémoires du général de Gaulle.
De lire.
Parce qu'il y a je ne sais pas combien de tomes.
Et moi, j'avais lu ça, oui, quand j'étais en faculté, et c'était assez intéressant. Donc, vous me dites d'y aller.
C'est bon. J'espère qu'il est toujours à l'affiche. Je n'ai pas vérifié,
oui,
puisque nous sommes déjà en août. Mais je pense que... Ben, j'espère que ça aura du succès, parce que ça permet de voir la bataille de Gaulle, c'est-à-dire...
Et combien il était un homme isolé, en fait.
Un homme isolé. Et c'est ça, surtout, qui était intéressant, parce que quelquefois, même c'est drôle, parce que des fois, on l'appelle la diva, parce qu'il, à lui seul, il dit toujours... il parle toujours au nom de la France, alors qu'il n'était pas, il était comme petit, je ne sais pas quoi, au début.
Oui, colonel, je crois,
un
lieutenant
petit colonel,
colonel
au départ, non, voilà. Et à la force du poignet, et par son intelligence, sans doute,
mais
et son
pas,
sens politique.
C'était pas gagné, hein.
Non,
c'était
mais
parce
c'était
que Churchill
ne l'aimait
pas trop, donc
Celui qui joue Churchill est formidable. Donc, c'est un film d'Antonin Baudry, celui qui avait réalisé Le Chant du Loup.
Le Chant du Loup. Alors, les sorties. Vous avez noté, je les cite les trois. Le Tombé du Ciel, Fjord, Le Fantôme de
Alors,
l'Opéra.
Tombé du Ciel, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé tout de suite, parce que c'est sur l'école, figurez-vous.
Sur le
et
bac.
C'est très, très drôle, parce que c'est avec Josiane Balasko. Et en fait, c'est réalisé par Mohamed Hamidi. Et c'est un jeune comment on peut dire, un beurre, ça se dit toujours ça.
Ça se dit encore, on va vous traiter de raciste.
Mais pourquoi un beurre, beurre
enfin,
un
petit beurre.
Non, c'est tout qui s'est auto-appelé comme ça, parce que c'est le verlan de arabe. Arabe, ouais. Rebeu, beurre. Hein? Donc, qui ne trouve pas d'école, il s'est fait un peu renvoyer de partout. Et il arrive chez dans une école religieuse catholique. Et alors, tout est basé autour justement des différences entre la religion catholique. Et évidemment, il y a beaucoup de scènes complètement hilarantes autour du porc, du cochon. Non, c'est drôle.
Donc
Josiane Balasko, elle est divine, à mourir de rire.
Elle est divine. Fjord.
Et les jeunes acteurs aussi.
Fjord, alors, Palme d'Or.
Palme d'Or. Il a eu deux Palmes d'Or. Ça fait partie du club des doubles palmés. Christian Mounjou. Alors, vous savez que c'est un réalisateur, un jeune réalisateur d'ailleurs, roumain. Alors, la Roumanie a un cinéma absolument formidable. Mmh. Ils ont souvent eu des palmes. C'est un cinéma, mais moi, je ne sais pas comment ils font, parce que c'est un ex-pays pauvre, un ex-pays qui a été dominé par une dictature des Ceausescu. Et alors, est-ce que c'est peut-être à cause de cette souffrance que, justement, ils arrivent à faire des films sociaux? J'ai lu, alors je ne vais pas raconter le film, mais j'ai lu des critiques comme quoi, évidemment, maintenant, c'est comme ça, on accuserait Christian Mounjou d'être réactionnaire. Mais... on ne peut plus avoir des idées un peu déviantes, il faut obéir.
On met dans des cases.
À la ligne. Mmh. On est dans une boîte, il ne faut pas en sortir.
Alors, on a deux, en fait, vous dites deux chouchous à la fin, mais on va enfoncer le clou. Hein. Mois d'août, on a parlé de l'école, et là, l'automne s'approche, donc on va écouter un petit peu Vivaldi.
Ben oui, on l'avait déjà écouté pour le printemps.
Donc là,
on remet le couvert.
Merci beaucoup Jean-Max d'être toujours avec plein d'idées.
Merci
pour nous parler
Sylviane.
Des films. Le Fantôme de l'Opéra avec Romain Duris. Alors moi je vais voir tous les films avec Romain Duris.
Ah bah je savais, il y a beaucoup de gens qui adorent.
Moi je l'aime depuis L'Auberge espagnole.
Mais oui, c'est un très bon acteur. Hein, voilà. Alors comme je sais qu'il est très apprécié, c'est un film d'Alexandre Castagnetti et c'est un texte donc de Gaston Leroux qui a été adapté au cinéma je ne sais combien de fois.
Oui, pas toujours de bonnes...
Voilà,
pas toujours
il
bien.
A été même adapté pour la télévision aussi, mais parce qu'en fait le sujet est plaisant, universel, ça serait ce fantôme qui vivrait dans l'Opéra de Paris.
Oui, voilà. Dans les sous-sols.
Je sais que, là, puisque nous sommes à Nîmes, on peut le dire, il y a eu une malédiction aussi sur le théâtre, vous savez, théâtre de Nîmes, qu'une dame, on avait enlevé son fils à la distribution d'un opéra, avait brûlé ce bel opéra à l'italienne.
C'est en 1952, comme ça que ça a brûlé.
Et du coup, je crois que c'est pour ça, à cause de ce fantôme-là, qu'on n'a pas voulu le reconstruire à l'identique.
Ah. Et puis, on finit, alors là, je sortis le 28 octobre 2026, mais vous l'avez déjà vu, Le Journal d'une Femme de Chambre.
Je l'ai vu. Je l'ai vu, ben, je n'étais pas à Cannes, vous le savez, je me suis déjà assez expliqué, mais ça me colle à la peau, puisque j'ai vu pratiquement 30 films de Cannes, mais à Paris, dans la canicule. Et donc, j'ai retenu ce film que je déclare comme un des meilleurs films de cette cuvée 2026. C'est le journal, comme vous venez de le dire, le journal d'une femme de chambre de Radu Jude, qui est un auteur roumain, mais qui vit en France, qui est roumain, qui a bien l'esprit. Alors lui, c'est plutôt l'esprit anarchiste. Hein. Ouais. Et donc le film, c'est un roman au départ. Ça a été adapté aussi au cinéma par Louise Buñuel avec Jeanne Moreau, qui lui avait plutôt vu le côté érotique. Ouais. Alors que là, ça se passe dans une famille à Bordeaux. Bordeaux, la ville où de la traite des Noirs, hein, du commerce triangulaire. C'était les deux bourgeois de gauche, hein, bien sûr, Mélanie Thierry et Vincent Macaigne, qui ont engagé une jeune bonne roumaine pour qu'elle fasse tout, quoi, en fait. Voilà. Hein, c'est un genre d'esclave assez mal payé. Voilà. Et c'est une considération à la fois sur... qu'on appelle maintenant les bobos, hein, les bourgeois bohèmes, sur leur position politique. Et puis elle, en plus de ça, enfin, il y a trois histoires dans ce même film. Voilà. Elle a laissé son enfant en Roumanie. Elle n'a que des conversations par téléphone. Et la patronne, là, Mélanie Théry, qui est professeure d'université, si j'ai bien compris le scénario, lui propose de jouer dans une pièce étudiante. C'est une mise en abîme. Le journal d'une femme de chambre.
D'accord. Et on en revient au théâtre, on en revient à l'école,
revient à l'art, parce que l'art, ça se répond.
Bien sûr. Hein? Ben merci Jean-Max. Ben donc merci voilà notre club cinéma d'août réalisé. On se retrouvera en septembre. Et je sais que vous allez voir plein de films pendant cet été. Comme d'habitude, bel été à vous.
Merci beaucoup.